Terre, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la procréation médicalement assistée. En France, elle est réservée aux couples hétérosexuels infertiles. Le comité d'éthique a rendu aujourd'hui un avis pour l'étendre aux couples de femmes et aux femmes célibataires. C'est une évolution importante qui doit encore être traduite dans la loi, mais à terme, si tel était le cas, les Françaises n'auraient plus à voyager, par exemple en Espagne ou en Belgique, pour contourner à leurs frais la loi actuelle. Alors qu'en pensez-vous? Trouvez-vous cette évolution normale, banale, ou vous semble-t-elle au contraire préoccupante, en contradiction par exemple avec l'idée que vous vous faites d'une famille, de la filiation? Intervenez, vos questions, y compris les plus pratiques, vos témoignages aussi, si vous avez dû recourir à la PMA à l'étranger. Le président du comité d'éthique est là pour dialoguer avec vous sur France Inter jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
La parole à Camille pour commencer. Camille qui nous appelle de Brest et que je salue. Bienvenue sur Inter.
Bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Donc moi j'avais une question pour Monsieur le Président. Voilà, je disais, pour situer un peu le contexte, moi je suis pour le mariage homosexuel. Je trouve que le lien du mariage, c'est quelque chose de culturel et qui est inscrit dans la société, donc qui est régi par les hommes. Au niveau de la procréation, ça me pose un peu plus question parce que la nature s'en mêle quand même dans cette histoire. Et ma question, elle était plus autour des femmes célibataires, en fait, de l'accès à la PMA pour les femmes célibataires. Je trouve que les enfants, ils sont issus du désir de deux personnes ou de la rencontre entre un homme et une femme, quoi. Et tout ça, ça fait une affaire à trois. Et en fait, je me disais, bah, dans les couples homosexuels, il y a quand même, bon, le désir de deux personnes qui se rencontrent, qui vient faire trois. Avant, les femmes célibataires, elles se débrouillaient pour avoir des enfants quand elles en avaient envie. Mais il fallait quand même qu'elles se coltinent la relation à l'autre, qu'elles se coltinent le rapport sexuel et qu'il y ait un partenaire, quoi. Donc, quoi qu'il se passe, en fait, il y avait quand même un géniteur dans l'histoire. Et la mère, elle pouvait en rendre compte, elle avait quand même une idée de qui c'était. Il y avait une personne imaginaire. Maintenant, je me dis, aujourd'hui, avec l'accès à la PMA pour ces femmes, est-ce qu'on a un peu de recul, une idée quand même sur l'évolution, le développement de l'enfant qui va être né d'une désir d'une seule femme, quoi, sans tiers. Je veux un enfant, je l'ai, et moi, je me demande ce qu'il en sera quand même du développement psychologique de ces enfants.
Merci beaucoup Camille pour cette question d'ouverture. Vous dialoguez ce soir avec Jean-François Delfraissy. Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le Président du Comité Consultatif National d'Éthique, Daniel Messager, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste santé à la rédaction de France Inter, on est donc ensemble jusqu'à 20h. Que répondez-vous, Jean-François Delfraissy, à Camille?
Bien, c'est un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions au sein du comité. C'est finalement à l'occasion de cet avis sur les besoins sociétaux de la procréation médicale assistée, on touche à des choses complexes, difficiles. Par exemple, les liens entre sexualité, procréation et filiation, vous les avez très bien évoqués. Je les redis pour que tous nos auditeurs comprennent bien, mais c'est bien ça là l'enjeu. Et à l'inverse, le comité d'éthique, l'éthique, c'est aussi quelque chose qui n'est pas dans l'absolu. Hein. Les choses évoluent, les innovations technologiques évoluent. J'en parlerai probablement à la fin parce que ça reste d'actualité. Et puis la société autour de nous, elle évolue et on doit tenir compte et il doit y avoir une éthique à la fois qui reste avec des grands principes, mais qui sait être à certains moments à l'écoute et évolutive de ce qui est en train de se passer.
C'est ça le cœur de l'évolution de la position du comité, c'est-à-dire prendre acte d'une évolution sociale qui fait que les femmes, toutes les femmes, quel que soit leur mode de vie, leur orientation sexuelle, peuvent avoir droit à la procréation médicalement assistée.
Je pense que c'est un élément important. Le comité a beaucoup réfléchi et a décrit une méthode un peu, qui est quelque chose qui évidemment passe difficilement à la radio comme ça, mais qui permet de décrire comment sur des questions extrêmement difficiles, où il peut y avoir des éléments positifs, des éléments négatifs, où on n'est pas obligé d'aboutir au consensus, comment il y a à la fois des points de dissension, mais aussi des points de butée. Et c'est une méthode de réflexion qui dépasse d'ailleurs le problème de la PMA, mais qui peut être appliquée à d'autres sujets. Et quand je suis arrivé à la présidence du Comité national d'éthique en janvier, Le comité était presque sur le point de dire, mais c'est ça notre réponse, on vous donne une méthode. Et on a quand même indiqué que, bon, il fallait probablement, pour qu'on soit visible, crédible et faire avancer par rapport à la société civile, prendre un certain nombre de décisions.
Daniel Messager.
Alors, vous dites même dans le compte-rendu du comité d'éthique dont vous avez fait part lors de la conférence de presse que ce serait plutôt même le refus de l'accès à la parentalité des couples de femmes ou des femmes seules qui poserait un problème. C'est quand même assez fort comme expression. Ce serait le contraire qui signifierait que,
oui, parce
que vous n'accompagnez pas en fait la marche de la société.
Jean-François, oui. Delfrécy.
Oui, parce que finalement, il y a une réponse qu'on appelle les 3-3. Hein, il faut être un peu schématique. Les 3-3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trois questions, en tout cas, qui se posent. C'est la technique elle-même n'est pas un problème. La technique est déjà utilisée sur d'autres points.
Pardonnez-moi, il faut juste rappeler qu'il s'agit d'une insémination avec un don.
Un don, oui.
Voilà. C'est pas une fécondation in vitro.
Et donc il
n'y
a pas de révolution, il n'y a pas de brutalité. Le deuxième point, c'est que c'est qu'il y a une demande d'autonomie, une demande sociétale de la part d'un certain nombre de femmes qui n'est pas très important. Hein. On est là en train de parler de quelques milliers par rapport à 600 ou 700 000 grossesses en France chaque année. Donc on replace ça dans le cadre. Et puis enfin, il y a c'est très bien évoqué par la question de notre auditrice, il y a une structure de cadre familial qui est en partie conservée puisqu'il y a bien une mère porteuse d'un enfant et qui va à un accouchement. Donc il y a quelque chose d'assez continu.
Avant de retourner au standard, une dernière question sur les débats qui ont conduit le comité d'éthique à prendre cette position. Il n'y a pas unanimité, il y a une majorité. La minorité a fait valoir quel argument pour dire « il ne faut pas y aller ».
Alors, la minorité, mais c'est un peu les arguments en sens inverse. Hein. C'est justement toucher à la filiation, que finalement, dans notre vision assez classique, il y a un père, une mère, et ces arguments seront sûrement ressortis par certains groupements, on peut l'imaginer. Et que, voilà, c'est quelque chose de difficile et qu'il faut conserver ça. Bon. C'est un des éléments du débat. On a beaucoup réfléchi dessus. Peut-être pour rappeler à nos auditeurs, le CCNE, c'est une instance où il y a une série d'intellectuels, plutôt de haut niveau, disons-le, composés à la fois de médecins, de chercheurs, mais aussi de juristes et de philosophes. Et c'est tout ça qui fait un amalgame avec une construction qui se fait au fur et à mesure, deux pas en avant, un pas en arrière, beaucoup de discussions. Et la décision, elle est prise par le CCNE plénier. Et là, deux tiers des membres ont considéré qu'il fallait ouvrir.
Et donc c'était autour de la filiation, de la définition de la famille, entre guillemets, de la place du père ou non, que les débats se sont cristallisés.
Exactement.
On retourne au standard. Michael, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
On vous écoute, Michael.
Oui, voilà, moi je voulais simplement apporter mon témoignage. Avec ma compagne, nous avons eu notre fille Lizzie par le biais de la PMA. Et c'est vrai que même si je comprends la décision du CNE, et que je peux tout à fait comprendre le souhait de procréation de la part de certains couples, aujourd'hui, moi je considère le moyen de la PMA comme une solution palliative à un problème de santé à la base, et je le perçois vraiment, basiquement, comme un médicament. Et c'est vrai que je me dis aujourd'hui, déjà de par la difficulté d'accès, l'augmentation des demandes possibles suite à cette ouverture, rendrait le parcours encore plus difficile qu'il ne l'est déjà. Mmh. En termes de coût des médecins, par exemple, médecins qui peuvent être dans les cliniques privées à des prix qui sont au-dessus de la moyenne, et par les disponibilités dans ces centres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un point qui m'inquiéterait, moi, sans discuter, sans porter d'avis sur le bien fondé ou pas, ou on va dire en termes de... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais grosso modo, voilà, pour moi, ça reste une solution palliative à un problème de santé à la base. Mmh. Et voilà, c'est un médicament.
Bien compris, Michael, Jean-François Delfrécy.
Non, on le comprend très bien et c'est finalement une définition, elle est simple et elle est compréhensible par tout le monde. L'avis du comité d'éthique portait justement pas du tout sur ça. Il portait sur les aspects, les demandes sociétales et non pas médicales, hein, qui sont auxquelles il y a déjà des réponses ou des éléments de réponse, mais sur les nouvelles demandes sociétales autour de la procréation médicale assistée. Alors vous soulevez néanmoins au passage deux, trois questions. Qui tourne autour de qui va prendre en charge s'il y avait par exemple ensuite un suivi politique avec une loi autour de cela. Le CCNE s'est bien sûr interrogé là-dessus. dans les autres trois dont j'avais pas tout à fait fini de parler tout à l'heure, on a une vision de rester dans le service public et de ne pas, en tout cas, passer à un circuit privé comme ça existe dans d'autres pays. Et ça, c'est fondateur à la fois de la part du CCA2 et pour ceux qui me connaissent également de ma part. Donc ça, c'est un élément très important. Et inversement, voilà, ça va poser un certain nombre de problèmes d'organisation des SECOS. On souhaite rester dans l'environnement public et c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ensuite, qui va prendre en charge? Est-ce que c'est complètement l'assurance maladie ou est-ce qu'il faudra demander une participation puisqu'on est dans quelque chose, un besoin particulier, chose qui existe déjà dans d'autres domaines, eh bien le CCE2 reste ouvert et en particulier ouvre cette porte.
Daniel Messager.
Mais c'est vrai que cette question est intéressante. Vous l'avez exposée d'ailleurs parce que quand vous avez rendu votre avis, vous avez fait part aussi de conditions de faisabilité. Et dans ces conditions de faisabilité, il y avait d'une part que le don de sperme reste gratuit, on est bien en France avec un don, c'est gratuit, et d'autre part que ça ne fragilise pas l'assurance maladie. Et Monsieur pose la question qui peut paraître légitime, qui est s'il y a trop de demandes, est-ce qu'effectivement ça ne va pas fragiliser? D'abord, est-ce qu'il y aura assez d'offres? Ensuite, est-ce que ça ne va pas fragiliser l'assurance maladie? Et qui paiera? Et on sent déjà dans les réactions qui sont apparues cet après-midi qu'il y a cette interrogation sur est-ce qu'on va faire payer ces femmes? Est-ce que finalement la gratuité va demeurer uniquement pour les couples hétérosexuels? Alors, c'est pas à vous de vous prononcer, mais vous avez ouvert quand même un petit peu la boîte.
Non. Jean-François Delfraissy.
On a ouvert parce que, bon, il faut être réaliste, on est dans un monde de 2017 et c'est une des questions qui se posent. Je vous ai déjà donné une piste en vous disant qu'on restait dans le service public, mais que l'ensemble des membres du CCNE ouvrait la possibilité d'avoir une participation autour de cela de la part des femmes et des couples de femmes qui le souhaiteraient. Après ça, c'est vrai que le nombre, on ne le connaît pas, mais je pense qu'on peut parler de quelques milliers et donc ça vient s'ajouter à un travail que font déjà les SECOS. Mais qui probablement est quand même dans une réalité de faisabilité qui reste possible.
Emilia, bonsoir, vous nous appelez de Lille. Bienvenue sur France Inter.
Bonsoir. Alors, moi, je voulais témoigner parce que j'ai également bénéficié d'une PMA en France en tant que couple hétérosexuel. J'ai bénéficié d'une FIV. Alors, je me suis renseignée sur le prix. Ça coûte une petite fortune pour chaque tentative. Donc je me demande, moi, si derrière les questions de morale, est-ce que finalement on ne cache pas des questions économiques? Puisque la France est le dernier village gaulois, que les autres pays européens qui ont autorisé la PMA pour toutes sont des pays où les femmes payent de leur poche. Je me demande si finalement la France ne cache pas des raisons économiques, bassement matérialistes, derrière des questions morales.
C'est-à-dire qu'on met du temps à l'ouvrir à tout le monde pour ne pas avoir à payer, c'est ça?
Pour ne pas avoir à payer, également former du personnel, parce que, comme le disait l'auditeur précédent, c'est aussi une question de personnel. L'attente est longue pour les couples hétérosexuels aujourd'hui pour pouvoir bénéficier d'une PMA. Ni 100% des couples hétérosexuels qui demandent une PMA ne l'obtiennent. Donc qu'en sera-t-il lorsque ce sera ouvert à tous les couples homosexuels?
Merci Emilia.
Oui.
Et les femmes célibataires. Merci Emilia. Jean-François Delfraissy vous a écouté, vous répond.
Non, je crois que le comité d'éthique se situe dans une question de grands principes. On est à ce niveau-là. Et on aborde quand même un certain nombre de questions qui vont se poser pour la mise en place des modalités pratiques. Mais ce n'est pas notre rôle. C'est d'abord, je ne sais pas ce qui va se passer, s'il y aura une loi ou pas. Et ensuite, voilà, on est dans un pays où il y a une vraie réflexion, une prise en charge, à la fois en termes de différentes pathologies, de prise en charge de médicaments à visée préventive, qui s'est exercée au cours des dernières années. Et on rentre, voilà, avec quelque chose d'additionnel par rapport à un débat. Mais par contre, vous posez une très bonne question. Je la sens bien dans l'auditeur précédent et dans votre question, les enjeux financiers autour de la procréation médicale assistée. Et je pense que vous avez raison. Il y a des enjeux financiers parce que ça coûte cher, parce que jusqu'à maintenant, il y a des équipes qui sont impliquées, monter toute une réflexion et des équipes de très haut niveau, comme nous les avons en France. Hein. Il faut souligner que nous avons en France des précurseurs dans ce domaine et qui restent très précurseurs. Et tout cela a en effet des enjeux financiers. Et il y a un enjeu financier autour du privé. C'est bien pour ça qu'on a voulu couper toute interrogation à cet égard et que nous situons notre positionnement dans une réflexion du public.
Énormément d'auditeurs au Standard d'Inter. La parole à Olivier. Bonsoir Olivier, vous nous appelez de Brest.
Oui, c'est ça. Bonsoir Nicolas et bonsoir à vos intervenants. La raison de mon appel était que moi je suis pas forcément pour la PMA, mais étant donné qu'elle existe effectivement, elle devrait être en vigueur pour tout le monde. Mais quid des homosexuels, des gays, des garçons, qui sont donc mis un petit peu de côté dans cette chose, alors que j'entendais Emilia, je trouvais intéressant ce qu'elle disait aussi avant, mais moi j'ai pensé à une réflexion en entendant ça, c'est un peu comme je suis d'une génération qui a connu le magnétoscope et la cassette vidéo, et c'est comme avoir permettre au magnétoscope de lire la cassette sans l'avoir, et interdire à la cassette d'avoir le magnétoscope.
Alors ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué, Olivier. Expliquez-nous.
Donc pourquoi seulement les femmes, et pourquoi ne pas permettre dire tout le monde a droit à la PMA et puis entendez-vous et voilà quoi.
Bien compris. Ça y est, c'est à nouveau clair. Merci Olivier. Jean-François Delfrécy. Vous voulez répondre ?
Non, juste à côté. Alors, l'avis du CCA2 porte à la fois sur l'accès à l'AMP pour les femmes seules et les couples de femmes, et il porte sur un deuxième point, qui est la grossesse pour autrui. Et finalement, la question que vous posez pour les couples de MSM ou d'homosexuels, comme vous le dites, et finalement, y a-t-il une possibilité, mais pas que pour eux, puisque ça pourrait être aussi ouvert à d'autres situations, de grossesse pour autrui. Alors la grossesse pour autrui, on est dans un modèle qui est très différent, et je le réexplique, on est avec une mère porteuse, qui peut avoir une grossesse qui a été démarrée, entre guillemets, à partir d'un don de sperme d'une personne X ou Y, ou au contraire un don anonyme, et à partir d'un ovocyte de la future mère ou non biologique, mais qui va s'occuper de l'enfant, et donc du couple éventuellement homosexuel. Donc on est là dans un modèle qui est extrêmement différent, et sur lequel le CCNE, dans sa totalité, a récidivé son avis de la plus grande réserve dans le modèle tel qu'il se présente à la fois en France, mais aussi au niveau mondial. Pourquoi ? Parce que là, on touche à des enjeux, alors de nouveau des enjeux commerciaux, très, très difficiles, qu'il y a un besoin de la part d'un certain nombre de couples, c'est une réalité. Il y a des réponses dans un milieu riche, du Nord, avec des structures juridiques très bétonnées aux États-Unis ou au Canada. Et puis, il y a toute une série de pays à ressources limitées où vous avez des très jeunes femmes qui sont vendues, entre guillemets, pour porter 3 ou 4 grossesses sur une période de 3 ou 4 ans dans des conditions qui sont éthiquement totalement inadmissibles. Et donc, on est partagé entre, finalement, être à l'écoute d'un besoin d'un certain nombre de couples pour qui ça serait une possible solution, et puis des conditions internationales qui ne s'y prêtent pas. L'avis du comité est sans équivoque à cet égard.
Et quid des enfants, Daniel. Parce qu'il y en a néanmoins qui arrivent en France, quid des enfants qui sont nés de mères porteuses, est-ce que vous préconisez certains principes concernant la filiation, parce qu'on sait que c'est extrêmement difficile, ces enfants sont affiliés juste au père actuellement. Vous proposez quelque chose pour la mère qui serait l'épouse du père mais qui n'est pas la mère biologique, est-ce que vous ouvrez quand même quelque chose?
Oui, Jean-François Delfrécy.
Il y a toute une c'était une discussion très importante et je reviendrai sur le mot enfant. Mais pour les enfants nés de GPA menés à l'étranger, il faut savoir qu'il y a déjà, les lois françaises sont beaucoup plus, je dirais, ouvertes qu'on ne l'imagine. Il y a eu déjà une série d'avancées importantes pour essayer de simplifier, de fluidifier finalement la reconnaissance juridique de ces enfants qui n'y sont pour rien. Et notre rôle d'adulte, je pense à tous les niveaux, est d'essayer de faire que ces enfants, eh bien, soient et les mêmes conditions, ou en tout cas des conditions similaires à ceux des enfants de tout le monde. Hein. Et donc, c'est ce que recommande une fois de plus le CCNE, mais en sachant qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le sujet, et il y a une série d'éléments juridiques à cet égard qui sont survenus en France. Mais je rebondis sur le mot enfant, parce que dans toute la discussion autour des besoins sociétaux de la PMA, eh bien, on écoute beaucoup les adultes, quelles que soient leurs conditions, leur couple hétérosexuel, homosexuel, bon, on écoute beaucoup ça, et finalement, quid des enfants? Et quid de ces enfants que nous allons aider dans une certaine mesure à naître? Et c'est un point essentiel et c'est une énorme responsabilité, hein. J'en ai pleinement conscience ce soir, parce que j'ai conscience qu'on est sous le regard de ces enfants, hein, et que ça nous touche tous, ça touche plus que le CCNE, ça vous touche vous aussi les journalistes, ça vous touche le public. C'est une décision commune que nous allons partager ou pas partager, c'est autre chose. Mais on est sous le regard de ces enfants. Et nous recommandons qu'il y ait une série d'études pour savoir à la fois au plan sociétal, mais qualitative et quantitative au plan psychologique, pour savoir comment se comportent ces enfants par rapport, je dirais, à des enfants de couples plus classiques.
Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup de me donner la parole et merci pour ces émissions. Voilà, moi je voulais juste apporter un témoignage. Je suis maman d'une jeune fille homosexuelle qui a eu un peu des difficultés à l'adolescence, et le mariage pour tous. Déjà, je remercie beaucoup Monsieur Hollande, et s'il y a ensuite la PMA, c'est franchement une projection pour ces jeunes filles qui est absolument formidable, enfin pour toutes ces femmes homosexuelles et qui veulent vivre leur homosexualité pleinement, parce que si la PMA est autorisée, c'est qu'on accepte cette parentalité, et c'est une avancée, je trouve, formidable. Et
vous en parlez, Hélène, avec votre fille?
Oui, bien sûr. Et
elle a un désir d'enfant. Elle veut avoir un enfant.
Elle veut avoir un enfant, mais elle dit peut-être que ça ne pourra pas. Elle ne s'autorise pas. Elle ne s'autorise pas à avoir ce projet. Et franchement, parce qu'elle ne s'autorise pas, parce que ça n'est pas possible pour l'instant facilement, et aussi parce qu'elle a peur que ce ne soit pas accepté par la société. Et si c'est accepté par la société, effectivement, c'est formidable, même si le chemin est compliqué quand même, certainement.
Restez en ligne, Hélène. On va donner la parole également à Rosa, qui nous appelle d'Avignon. Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir. Et merci beaucoup pour vos émissions engagées, et à vous, Monsieur Demorand,
merci
pour votre écoute attentive et bienveillante.
C'est gentil.
Que j'ai trouvé toujours. Voilà, alors moi, je voulais dire que, comme adulte, j'entends très bien les désirs d'enfants des femmes célibataires ou des couples homosexuels femmes. Aucun jugement là-dessus, mais c'est vrai que je me pose beaucoup de questions de ce côté-là. Surtout côté de l'enfant. Qu'en est-il du côté de l'enfant? On sait que les enfants issus de un père et une mère, quand il y a les pères absents et même la mère absente, mais je préfère parler ici que du père, puisque ça va un peu avec la question. Voilà, les problèmes que ça crée, ça déjà pour l'enfant, de ne pas savoir qui est ses pères, de ne pas avoir une relation avec lui. Et je me dis, qu'en serait-il pour lui dans cette situation où on crée déjà d'a priori ce manque. Voilà, je n'ai aucune croyance religieuse. Ma question est plutôt philosophique, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et moi, ça m'intéresse beaucoup le côté enfant.
Restez...
Et on parle beaucoup ou d'argent ou des mères que je peux très bien entendre les désirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'enfant?
Bien compris, Rosa. Restez en ligne, restez surtout en ligne. Hélène est en ligne, vous Rosa, vous l'êtes aussi. La parole à Laurent maintenant. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute, Laurent.
Merci beaucoup. Alors en fait, justement, moi je suis issu de PMA de dons inconnus. Je suis né en 1974, c'était tout début. Et donc du coup, je suis à la recherche du donneur depuis que je l'ai appris, quand j'avais une vingtaine d'années. Mes parents sont des gens hétérosexuels ayant des problèmes pour avoir un enfant. Et je me dis, est-ce que ça ouvre pas le champ des difficultés pour tous les enfants qui seront issus de PMA maintenant pour retrouver un père, une mère en fonction de la nature de leur couple?
J'entends un petit bébé à côté de vous, Laurent?
Oui, en effet.
Quel âge? Ça avait l'air d'être un... Ah oui, c'est jeune ça, hein?
Elle a 7 mois.
Permettez-moi une question, Laurent. Je veux évidemment pas être indiscret, mais la volonté de connaître le donneur, l'anonymat sur le père, entre guillemets, ça vous a pesé? C'est quelque chose sur lequel vraiment vous avez envie d'avancer, de savoir?
C'est-à-dire qu'en fait, on est deux enfants dans la fratrie. Je sais que ma sœur en a beaucoup plus souffert que moi. Je l'ai souvent accompagnée dans ses recherches et c'est toujours quelque chose qui nous taraude un peu. On a tendance à contacter les associations PMA anonymes, par exemple, pour nous renseigner là-dessus. Vous avez toujours, quand vous êtes né, vous avez été conçu de cette manière-là, vous avez toujours l'impression qu'un jour, vous allez pouvoir croiser cet inconnu dans la rue qui en fait est votre géniteur. Mmh. Et ça, c'est problématique. La France nous interdit le droit aux origines, alors que c'est reconnu par le droit européen, sauf erreur. Est-ce qu'on n'ouvre pas plus d'injustice de ce côté-là? On pense aux parents, c'est bien. J'ai absolument rien contre ou pour les couples homosexuels. Mais est-ce qu'on pense à un moment aux enfants?
Restez en ligne, vous aussi, Laurent. Jean-François Delfrécy, voilà, le débat prend parmi les auditeurs avec des positions qui se complètent, je trouve, et des interrogations qui sont dans tous les cas légitimes. Comment recevez-vous l'ensemble de ces interventions? C'est un débat de qualité, hein.
Oui, non, je les reçois bien parce que je pense que les grandes questions d'éthique ne sont pas réservées aux experts et qu'elles doivent s'ouvrir sur la société civile et que sur ces questions-là, le retour de cette société civile, d'expérience personnelle, est un élément essentiel. Le deuxième élément, c'est que j'avais évoqué d'ailleurs avant, c'est le problème des enfants. Mmh. Hein. Vous avez senti je suis personnellement très interpellé par les questions sur le devenir de ces enfants. Et donc, il faut qu'on se donne les moyens pour pouvoir avoir une évaluation si une décision législative était prise, que d'ici quelques années, on puisse dire voilà ce que nous savons, voilà ce que nous ne savons pas. Et enfin, dernier point, et qui est un débat alors que nous n'avons pas, qu'on a discuté au sein du CCNE, mais qui ne fait pas partie de la vie et qui était soulevé par votre dernier auditeur, c'est autour de l'anonymat du don et qui là est complètement déconnecté de la foi de la décision du CCNE et de la réflexion qui est sur le caractère anonyme du don qui est une base angulaire du don en France, non seulement pour le sperme mais aussi pour le don d'organes par exemple. Alors je pense que vraiment cet avis du CCNE, c'est celui de juin 2017 que nous avons l'occasion de reprendre probablement ce débat et en y mettant une place plus importante avec la société civile. On aura d'ailleurs besoin de la presse à cet égard. Et que ce problème de l'anonymat méritera peut-être qu'on s'y rattache à nouveau. J'ai néanmoins, mais c'est peut-être un effet générationnel, je suis moi dans finalement quelque chose où l'anonymat du don et la gratuité du don est quelque chose qui a scandé ma carrière vous savez, il faut être ouvert.
Rosa, est-ce que vous avez envie de demander quelque chose à Laurent? Vous vous inquiétez des enfants?
Non, ce que je voulais dire, c'est que les messieurs qui viennent d'intervenir, les jeunes hommes,
Laurent.
Voilà, Laurent. Et il a corroboré un peu mes réflexions, parce que lui, il a un père et une mère, mais il a eu un donneur pour d'autres raisons médicales. Et quand même, lui, il cherche cet homme qui, voilà, les donneurs. Alors, imaginez-vous, dans un couple où c'est que deux femmes, là, il n'y a même pas la figure du père, bon, c'est pas un problème, mais je veux dire... ils vont chercher peut-être en plus davantage. Je trouvais que par rapport à l'enfant, comme l'enfant, il n'est pas là, il faudrait, dans ses réflexions, tenir beaucoup plus compte de l'enfant parce que lui, il n'a pas le droit à la parole parce qu'il n'est pas là. Mmh. Les femmes, on peut dire, on peut avoir notre désir. Mais voilà, je pense que la question devrait aller beaucoup plus loin et surtout du côté de l'enfant pour vraiment bien l'amener.
Laurent, vous voulez dire un mot? Bah, la parole de l'enfant, en tout cas du vôtre, on l'entend bien hein, sur Inter. Vous voulez dire un mot, parler avec Rosa, réagir?
Alors, je pense que déjà deux choses, entre l'anonymat et la gratuité, c'est deux choses différentes. On peut tout à fait garantir la gratuité et lever l'anonymat. Première chose. Et deuxième chose, à vouloir donner plus de droits aux parents, on continue la négation des droits des enfants. Ça pose un véritable problème.
Mmh. Hélène, vous êtes toujours là. Comment recevez-vous le débat entre Rosa et Laurent et vous ?
Alors moi, je suis très optimiste et je suis persuadée qu'il n'y aura pas plus de difficultés chez les enfants issus de PMA de couples homosexuels que chez les enfants issus de PMA de couples hétérosexuels. Et travaillant avec des enfants en difficulté, franchement, c'est tellement... Il y a plein de choses qui rendent... qui rendent la vie difficile et voilà, je pense que les parents sauront être très vigilants et il faut être optimiste, y croire et je suis persuadée que c'est une grande avancée pour notre société.
Merci à tous les trois, merci Hélène, merci Rosa, merci Laurent d'être intervenu ce soir sur Inter. Daniel Messager sur un autre point.
Oui, parce qu'il y a eu trois avis finalement ce matin. On a parlé de la PMA, on a parlé de la GPA. Le troisième, c'est sur l'autoconservation des ovocytes. Donc, ces femmes qui ne font pas d'enfants tout de suite pour des raisons qui leur sont propres, hein, professionnelles. C'est un peu trop ce qu'on met en avant, ça peut être des raisons personnelles. Elles n'ont pas trouvé le bon père aussi et qui se retrouvent un peu plus tard à avoir des difficultés. Et une des solutions pourrait être effectivement l'autoconservation des ovocytes. Donc, le comité s'y est montré défavorable. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi. Juste, je vous rappelle en deux mots la situation actuelle. Elle n'est autorisée en France, cette autoconservation des ovocytes, que pour une femme qui peut être atteinte d'une maladie grave, par exemple un cancer. Elle met ses ovocytes de côté, elle pourra éventuellement les récupérer plus tard. Voilà. Pour les autres, celles qui sont juste en besoin peut-être d'attente, ce n'est pas possible. Sauf dans une situation un petit peu hypocrite quand même, il faut le reconnaître, si l'on est donneuse. Alors, on peut se déclarer depuis quelques années donneuse pour une femme qui en aurait besoin, ça c'est très bien. On produit des ovocytes, mais pour en garder pour soi, il faut en produire beaucoup. Il faut en produire beaucoup et que la plupart du temps, on n'en produit pas assez et qu'ils se retrouvent tous pour la donneuse, pour celle qui est en attente et que la donneuse elle-même n'en a plus pour elle. C'est un petit peu hypocrite quand même cette situation. Vous n'avez pas voulu, Jean-François Delfrécy, éclaircir tout ça. On en reste à la situation actuelle, c'est statu quo, c'est pas possible en France.
Alors, on a eu de larges discussions au sein du CCE2. La majorité a décidé que finalement on restait avec une non-ouverture, en effet, pour des raisons à la fois médicales et éthiques. Mais l'éthique, vous savez, rejoint le médical. Voilà, parce que il faut que nos éditrices comprennent que c'est une aventure de donner entre guillemets ces ovocytes, y compris pour soi-même. C'est trois stimulations, trois anesthésies générales dans l'immense majorité des cas, des ponctions sous écho, un petit risque infectieux, un petit risque hémorragique ou de thrombose. Donc, dans la balance bénéfice-risque, c'est pas si évident, ce d'autant que l'utilisation ensuite de ces ovocytes pour mener une FIV n'est pas si facile que ça et le taux de succès se situe bien sûr en fonction de l'âge de la donneuse. Donc notre message est pour l'instant, en tout cas, eh bien de poursuivre ce message aux femmes jeunes, et je leur dis, d'ailleurs j'en profite puisque je suis sur chez vous, en disant que, réfléchissez, je sais bien que les conditions sociétales sont pas évidentes, mais faites une grossesse finalement assez tôt dans votre vie de jeune femme.
Delphine, je tiens absolument à vous donner la parole. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel.
Alors, racontez-nous.
Oui, alors moi je voulais apporter juste un petit témoignage pour nuancer parce qu'on a beaucoup entendu les gens appeler pour dire que la PMA était une technique qui était réservée aux gens qui avaient des problèmes médicaux, d'infertilité et que du coup l'ouvrir aux couples de même sexe c'était en gros utiliser une technique médicale pour des gens qui n'en avaient pas besoin. Et il se trouve que moi je suis mariée avec une femme, qu'on a un petit garçon de 5 ans qu'on a eu par la PMA. Ça a été un parcours très long de 5 ans d'ailleurs. Et il se trouve que je suis atteinte d'une pathologie qui fait que je ne peux pas avoir d'enfant sans PMA. et que pour la France, du coup, le fait que je sois mariée avec une femme a été plus important que ma pathologie et ce qui nous a poussé à aller à l'étranger. Mais que réserver la PMA aux gens qui ont des problèmes d'infertilité, ça peut aussi toucher des personnes homosexuelles, donc voilà.
Et comment va le petit garçon de 5 ans, alors, puisqu'on a beaucoup parlé de l'intérêt de l'enfant, de savoir si ça posait problème, pas de problème, comment ça se déroulait dans les familles
alors,
après, etc.
Il aurait beaucoup à dire, et du coup, c'était...
Bah, passez-lui le téléphone.
Il n'est pas avec moi ce soir,
ah,
d'ailleurs,
dommage.
Il m'embrasse très fort s'il m'écoute, mais il aurait beaucoup à dire, parce qu'il est à un âge où, en plus, ils sont très préoccupé par ce que c'est la famille, ce que c'est les parents. Et il est extrêmement fier de ses mamans. Il est tout le temps en train de parler de ses parents. Et il est éduqué, si vous voulez, dans un milieu où on lui explique que les familles sont multiples. Et il le voit autour de lui. Et il m'a toujours posé la question, d'ailleurs, du papa. Qu'est-ce que c'est un papa? Lui, il n'a pas de papa. Du coup, on lui a toujours expliqué. Et c'est quelque chose, en tout cas pour le moment, qu'il vit très très bien parce qu'il n'y a pas de secret. Si vous voulez, la notion de secret est importante aussi. Il a toujours su quelles étaient ses origines. Donc il n'y a pas de secret. Voilà.
Et comment recevez-vous, Delphine, le discours qui consiste à dire que s'il n'y a pas de père, c'est de toute façon, en dernière instance, dysfonctionnel. Vous l'entendez, ce discours, j'imagine?
Ah oui, ça, on l'a bien entendu.
Et, oui, parce que vous l'avez même reçu 5 sur 5. Alors,
si vous voulez,
dites-nous comment vous le recevez.
Pendant la manif pour tous, donc on l'a d'autant plus reçu. Écoutez, moi, j'entends les inquiétudes, mais les gens qui disent il faut penser à l'enfant, il faut donner la parole aux enfants, justement, écoutons ces enfants-là. Parce que c'est pas des enfants qui vont mieux que les autres, mais ils vont pas moins bien non plus.
Oui, oui.
Voilà.
On est tous névrosés, hein, de toute façon.
C'est ça. C'est-à-dire que je suis pas sûre que mon fils fera pas une psychanalyse plus tard, mais ni plus ni moins
pour
que ses cousins.
Pour dire du mal de ses mères.
Exactement, exactement. Mais en tout cas, pour le moment, et c'est pas que nous qui le disons, hein, parce qu'on a des retours aussi des collectivités, et des endroits où il va ni mieux ni moins bien qu'un autre, il va même plutôt très, très bien, il est plutôt très à l'aise dans ses baskets, et on a déménagé à Londres, donc on est dans un pays où la vision des choses est totalement différente, et on n'a jamais ressenti le moindre souci avec notre famille.
Là, vous êtes à Londres.
On a déménagé il y a quelques mois à Londres,
Et c'est très différent qu'en France, vous êtes perçu différemment?
Alors nous, ça nous a beaucoup surprise parce qu'on avait tendance nous-mêmes à avoir, je pense, certaines réflexions en se disant oui, c'est normal que ce soit plus difficile pour certaines personnes d'une autre génération. Et en fait, à Londres, on n'a jamais eu le problème. On a notre propriétaire qui est un très vieil Anglais de 80 ans qui n'avait sans doute jamais vu de couple de femmes avec un enfant et qui ne nous a jamais fait la moindre réflexion, qui nous a toujours acceptés. Et c'est pareil à l'école, et c'est pareil n'importe où. Et je n'ai jamais eu le moindre souci à m'afficher avec ma famille à Londres. Et je ne sais pas si à Paris, j'aurais toujours eu cette désinvolture, je ne sais pas.
Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Delphine. Saluez le petit gars, hein, et il a l'air d'aller formidablement bien.
Ah oui, ça y va très bien.
Et vous avez l'air très amoureuse, donc oui. Félicitations. Merci beaucoup d'être intervenu. Bon, bah voilà, Jean-François Delfraissy, c'est parfait pour... conclure nos débats, non?
Non, c'est un très beau témoignage. Hein. Bon, après, il faut bien sûr replacer ça dans un contexte français, hein, mais qui, je crois, la France bouge aussi. Et maintenant, c'est voilà qu'il y a cet avis du CCNE. Eh bien, nous attendons maintenant une décision politique à court ou à moyen terme. D'ailleurs, ça n'a pas une importance majeure. Je pense que l'idée est là et la vision est là.
Et ça va être intéressant de voir politiquement comment c'est possible, comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura des manifestations ou non, des débats puissants ou pas. On verra, ce sera intéressant à suivre. Merci beaucoup, Monsieur le Président Delfraissy, d'être venu au micro d'Inter. Merci beaucoup, Daniel Messager. Merci à vous, amis auditeurs.